Chapitre 25. Savine observe son reflet dans la vitrine de la galipote. Elle s'est garée place de la poterne sous le réverbère. Le visage fatigué de l'assistante sociale, ses cheveux grisonnants, la laine taupe de sa veste se confondent dans la vitre du magasin avec les masques de sorcière, les araignées en plastique et les baguettes magiques, tout ce bric-à-brac folklorique vendu par Aster Paturin dans sa boutique. Elle n'arrive pas à se calmer. Qui m'en empêchera? Les derniers mots de Maddy résonnent en écho dans sa tête. « Moi ?» pense Savine. « Moi ?» Elle appuie nerveusement sur la sonnette. « C'est Savine. Désolé pour le retard. »«
Pas grave, monte. On t'ouvre. »
Aster et Nectaire sont installés à table, dans la grande pièce mansardée, aménagée au-dessus de la boutique.
« Assieds-toi. »
Son assiette, son verre, son couvert sont dressés. Savine est habituée à leur fascinante hospitalité. Aster et Nectaire sont un véritable couple. Ils invitent, cuisinent, reçoivent, conversent avec passion, se disputent avec tendresse, font de leur caractère opposé une solide complémentarité et un sujet intarissable de plaisanterie. Il ne leur manque qu'une famille. Des enfants et des petits-enfants pour peupler leur vieillesse. L'amour, ils l'ont, sans le piment du désir, mais de l'amour tout de même. On t'a gardé du tripou.
Du tripou?
Savine s'est habituée à tout depuis qu'elle est arrivée en Auvergne, mais pas au boyau de veau qui baigne dans le jus de carotte.
Comment va Tom?
S'inquiète Aster. Savine la remercie intérieurement, ça lui donne une excuse pour ne pas se jeter sur le plat. Elle raconte en détail la fuite du garçon dans le champ du père Chauvet, sa chute de la cascade du saut du loup, puis les rassure. Tom est hors de danger.
Ouf,
souffle Aster. Savine sait qu'elle est très attachée à Tom. Avant d'ouvrir son magasin, Aster a exercé un peu tous les métiers. Assistante de vie scolaire, animatrice au centre de loisirs, nounou et même babysitter. Tous les boulots qui la mettaient au contact des enfants et lui permettaient de garder du temps pour sa véritable passion. Conteuse. Aster la sorcière. Connue de tous les gosses, Dorcival à la Bourboule. Aster et son théâtre de marionnettes. Aster et ses aventures extraordinaires de la galipote. Au pays des volcans. Elle a rangé tout cela maintenant. Vaincue, comme toutes les sorcières, les lutins et les korrigans, par les écrans.
Mange, conseille Nectaire.
Ça va refroidir.
Savine masque une grimace, mais Aster sait lire dans les rides des visages, comme dans les lignes de la main.
Laisse-la tranquille. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas faim? Sers-lui plutôt un verre de vin. Qu'est-ce qui ne va pas, ma grande?
Savine hésite, puis se décide à se confier. Si elle ne parle pas à Aster et Nectaire, à qui pourrait-elle parler? Elle prend le temps de répéter presque chaque mot de sa conversation nocturne avec Maddy Libéry, avant de conclure.
Maddy Libéry est un bon médecin, aucun doute là-dessus. C'est une femme forte, indépendante, qui a la tête sur les épaules. Du coup, il y a un truc qui m'échappe. Qu'elle ne se remette pas de la mort de son fils il y a 10 ans, je peux comprendre. Mais qu'elle tourne autour d'un autre gosse, qu'elle puisse vraiment croire qu'il est le sien, peut-être même au point de faire une connerie.
Aster joue avec les bracelets en perles de bois qu'elle porte au poignet.
Tu sais, Savine, on peut être parfaitement raisonnable, rationnel, diplômé, cultivé, éduqué, et ne pas accepter la mort de l'âme. Ne pas accepter que tout meure, tout pourrisse. Tout se termine bouffé par les vers une fois en terre. On peut, tout ce qu'il y a de plus sérieusement et même scientifiquement, penser que quelque chose, que ce soit l'âme, la conscience, l'esprit, survit.
Elle se frotte la nuque comme si son collier de cuivre était trop lourd à porter et s'adresse d'une voix énergique à son frère.
« Nicky, vire-nous cette foutue assiette de tripes. Tu ne vois pas qu'elle lui donne envie de vomir? Et va lui chercher de la fourme, du bleu et de la charcuterie !»
Savine semble fascinée par l'étrange pendentif d'Aster. Un simple fil de cuivre entortillé en spirale, avant de s'achever par une tige dorée, plus épaisse.
« Vas-y, Aster, » demande-t-elle. « J'ai besoin de comprendre. Explique-moi.
Quoi ?
Tout. La réincarnation, le karma, la migration des âmes. »
Derrière eux, Nectaire recouvre avec méticulosité l'assiette de Tripou. Il étire de la cellophane et inscrit au feutre indélébile la date et l'heure sur le film plastique avant de ranger le tout dans le frigo. Aster plante ses yeux de sorcière hypnotiseuse dans ceux de l'assistante sociale.
Je vais faire l'impasse sur l'hindouisme. Des religions, je me doute que c'est pas vraiment ta tasse de thé, comme dirait Nectaire. Par contre, tu pourras aller sur Wiki taper le nom du professeur Stevenson. Il a étudié, partout dans le monde, des milliers de témoignages d'enfants prétendant se souvenir de leur réincarnation.
Aster détaille alors le modèle Stevenson, les anomalies physiques des enfants, les marques de naissance, phobies ou dons inexpliqués, les traumatismes de la vie antérieure, souvent conclus par une mort violente et précoce.
Il est sérieux, ce professeur Stevenson ? Je veux dire, c'est un scientifique ? Il a un laboratoire ? Enfin, ce n'est pas du baratin, on peut le croire ?
Tu entends quoi par « on peut le croire » ?
Eh bien, ce qu'il raconte, ses témoignages, c'est vrai ou pas ?
Qu'est-ce qui, selon toi, permet de déterminer que quelque chose est vrai ou pas ?
Je ne sais pas. Je suppose que si la majorité des gens pensent quelque chose, c'est que ça doit être plus vrai que faux.
Alors, si on compte les hindouistes, les bouddhistes, mais aussi un quart des Européens et presque un tiers des Américains, une majorité de gens sur Terre croient à la réincarnation, sont persuadés que notre corps n'est qu'un vêtement et que notre âme lui survit.
Et qu'elle en change dès qu'il est trop usé, c'est cela ? C'est cela la réincarnation ? L'âme est comme une puce qui saute d'un homme à un autre ? Ou d'un homme à un chien ? D'un chien à un chat ? Puis d'un chat à un rat ? C'est aussi simple que cela ?
Non, ce n'est pas aussi simple. C'est au contraire un long voyage. Un voyage dont nous ne gardons aucun souvenir en général. Sauf quand cela se passe mal.
Comment ça, quand ça se passe mal ?
Nectaire leur présente une copieuse assiette de charcuterie et un assortiment de fromage d'Auvergne. Bleu, fourme, cantal et bien entendu, Saint-Nectaire.
Ça, ma belle,
répond Aster en faisant tourbillonner son pendentif de cuivre.
Personne ne le sait. C'est le mystère. Pourquoi certaines âmes reviennent et d'autres non ? Pourquoi certaines cognent fort dans un cerveau pour qu'on se souvienne d'elles ? Et d'autres se font discrètes ou nous influencent habilement sans se faire remarquer ? Tu vois de quoi je parle ? L'instinct, l'intuition, le sixième sens.
Savine grignote du bout des dents une tranche de jambon cru.
Ton Stevenson n'a pas de théorie là-dessus ?
Si. D'après lui, si on écarte les témoignages toujours sujets à affabulation, il reste trois preuves irréfutables d'une réincarnation. Les marques de naissance sur le corps, les phobies et la xénoglossie.
Derrière elle, Nectaire siffle entre ses dents.
Waouh ! Si ce que raconte le docteur Libéry est vrai, Tom a touché le tiercé dans l'ordre. Plus ces preuves seront puissantes, continue Aster sans relever l'ironie de son frère, et plus le décès dans la vie antérieure aura été violent.
Savine n'a presque rien mangé. Nectar a tout remballé, déroulant à nouveau sa cellophane, millimètre par millimètre. Savine s'étonne qu'il n'agrémente pas son lent rituel d'une théorie sur ceux qui enveloppent leurs aliments ou pas, ceux qui conservent les restes dans des boîtes en plastique, ou les laissent dans le plat. Je vous prépare une infusion,
si tu veux, Nicky.
Il s'éloigne en direction de la cuisine. Avant même qu'il l'ait atteinte, Aster s'est levée pour ouvrir le buffet. Elle en sort deux petits verres et une bouteille de fourche du diable aux racines de gentiane.
Si on ne veut pas mourir de soif, en attendant que Nicky ait fini.
Elle savoure l'amertume de la liqueur citronnée par petites gorgées.
Imaginons, suggère enfin Savine, imaginons qu'Esteban se soit vraiment réincarné dans le corps de Tom. Qu'est-ce qui nous prouve qu'Esteban n'est pas lui-même la réincarnation de quelqu'un d'autre avant ? Ou que Tom ne se réincarnera pas dans un nouveau corps s'il lui arrive un malheur ?
Ça, répond Aster, c'est ce qu'on appelle le samsara, le cycle des réincarnations. Tu veux vraiment que je te fasse un cours de bouddhisme ?
Si tu simplifies.
Ok. Pour te résumer en deux mots, le samsara est un cycle de vie dans lequel on est enfermé. Une prison qui n'apporte que souffrance et illusion. Seul notre karma, c'est-à-dire la somme de nos actes, permet d'en sortir et d'atteindre le nirvana. Tu vois, c'est ce que symbolise ce bijou.
Elle agite son collier sous le nez de Savine.
C'est un unalôme. Les spirales rappellent nos vies successives et le chemin tortueux jusqu'à l'éveil, qui est représenté par cette ligne droite dorée.
Mais crois-moi, ma chérie, avant d'atteindre ce merveilleux palier, il y a de sacrées étapes à franchir. Et pour commencer le passage de l'âme infantile à l'âme mature.
Savine vide son verre, fascinée par le pendentif.
C'est-à-dire ? L'âme infantile, c'est le début d'un cycle de vie. L'âme mature, au contraire, en a déjà vu un paquet défiler. Tiens, pour t'expliquer, regarde Nectar et moi. Je suis d'évidence une âme infantile. Et Nicky, un très joli spécimen d'âme mature.
C'est le secret des couples qui durent,
ajoute Nectar du fond de la cuisine.
Tu te souviens, Savine ? C'est ce que je te disais en sortant de l'enterrement. Le monde se divise en deux. Les âmes infantiles qui traversent n'importe où. Et les âmes matures qui respectent les passages piétons, les âmes infantiles qui mangent en 5 minutes, et les âmes matures qui peuvent rester des heures à table, les âmes infantiles qui cavalent autour du monde, et les âmes matures qui se contentent d'admirer le paysage devant leurs fenêtres, les âmes infantiles qui ont 1 million de disques chez eux, et les matures pour qui le chant des oiseaux suffit. Ok, Nicky ?
Coupe Aster.
Je crois qu'on a compris.
Savine savoure le permanent jeu de ping-pong entre la sœur et le frère. Elle adore la fantaisie d'Aster, mais plus encore la philosophie décalée de Nectar. À courir toujours partout, Savine réalise qu'elle doit être elle aussi un beau spécimen d'âme infantile, et que Nectar serait donc son complément parfait. Sauf qu'il a déjà une femme dans sa vie. De quoi Aster la sorcière serait-elle capable si elle lui volait son frère ? Aster, qui leur resserre 2 verres.
Mais si tu t'intéresses au mystère,
poursuit-elle,
à l'au-delà, au surnaturel, pas besoin d'aller inviter Bouddha, Shiva ou le Dalai Lama. On a déjà bien assez de croyances ici. C'est à cause des volcans, je crois. Je ne te fais pas de dessin. Les éruptions, le feu, le soufre, les entrailles de la terre, l'enfer. Descends l'escalier. Tu trouveras dans ma boutique des bouquins entiers sur les exploits de la Gallipote, la sorcière des moulins, le village englouti sous le lac Pavin, les cascades miraculeuses, les empoisonneuses, ou même cette légende ancienne de la fontaine de Froidefond. Sais-tu, Savine, qu'on l'a longtemps appelée la fontaine des âmes ?
Nectar pose bruyamment les mugs sur la table.
Waouh !
Aster la sorcière va nous ressortir tous ces vieux contes.
Oh, garde tes boniments pour tes clients, tes talismans en peau de serpent et tes soi-disant fortifiants aux extraits de digitaline. Moi, mon instinct me souffle que l'affaire Esteban Liberis explique tout ce qu'il y a de plus rationnellement.
Vraiment, Bocolon ? S'amuse Savine. Alors, on ne va pas tarder à voir surgir des petits hommes verts de tous les cratères.
Ha, ha, ha.
Nectar positionne avec une précision chirurgicale les boules à infusion dans chacune des tasses, avant de lever la tête pour répondre à Savine.
N'empêche que moi, demain dès l'aube, je vais à la pêche. Je dois rappeler Lazarbal, le policier basque, qui a piloté les recherches sur la disparition d'Esteban Liberi, puis dénicher des informations sur le berceau de la cigogne, cette fameuse association. Et enfin, passer chez le boulanger.
Aster dépose un tendre baiser sur la joue de son frère, moqueuse.
« Tu me ramèneras des croissants, mon chéri ?»
Nectar rougit.
« Non, Asti, désolé. Je dois seulement téléphoner au fournil de Lamia à Saint-Jean-de-Luz. Le matin où Esteban a disparu, il devait y passer pour acheter le pain. Sa mère lui avait confié une pièce de 1 euro que, d'après Lazarbal, personne n'a jamais retrouvé. »
Aster verse négligemment une bonne rasade de gentiane dans son infusion, sans se soucier de la grimace de Nectar devant ce sacrilège.
« Normal ?»
commente la sorcière.
« Il s'en est servi pour payer la traversée du fleuve de l'enfer. »
Nectar et Savine en restent leur boule à thé en l'air.
« Vous n'en avez jamais entendu parler ?»
s'étonne Aster.
« Pendant des siècles, on plaçait une pièce de monnaie sous la langue de chaque défunt pour qu'il puisse payer son voyage de l'autre côté du Styx, la rivière des enfers. Seuls ceux qui pouvaient payer avaient une chance d'être choisis par le gardien des enfers pour monter dans la barque et donc de revenir parmi les vivants. »
Nectar susote sa tisane, mais Savine a gardé son mug en équilibre à hauteur de son nez.
« Et ceux qui montent dans la barque ?»
demande-t-elle.
« Ils sont sélectionnés comment ?»
Aster fait une dernière fois tourbillonner son unalôme autour de son cou. Les cercles de cuivre lancent de mini-éclairs.
« Le gardien des enfers est un juge, celui du jugement dernier. Alors il n'y a que 2 possibilités pour être autorisé, après sa mort, à retourner dans le monde des vivants. Soit le défunt est innocent et il sera autorisé à revenir sur terre pour se venger, soit il est coupable et il y reviendra pour être condamné. »